Chapitre 6. Sophie revint peu après, flanquée de ses deux sœurs qui affichaient un air grave. Elle s'était sûrement fait gronder. On voyait qu'elle avait pleuré. Marie et Cécilia restèrent près d'elle comme deux gardes-chiourmes le temps qu'elle présente ses excuses. « Pardon, Daniel, je n'aurais pas dû dire ça. C'était stupide de ma part. Je ne parlerai plus sans y avoir été invitée. » Mais était-ce sa faute? Apparemment, l'histoire de ma découverte était l'événement dont tout le monde parlait en ville, le plus fascinant que l'on eût connu depuis des années. Sophie révélait chaque jour de nouveaux potins colportés par les domestiques. Kathleen dit que le ramoneur est passé ce matin, et il lui a raconté que bien que tu sois chez nous depuis plusieurs semaines, Mrs. Parker continue à s'inventer toutes sortes de prétextes pour rendre visite à ses amis et se vanter d'être la première à t'avoir aperçue. Par-dessus son épaule, je vis ses sœurs commencer à froncer les sourcils. Mais Sophie était partie sur sa lancée. « Et Mrs. Parker dit que même si tu vivais à Hawthorne Cottage depuis ta naissance, ou presque, ce n'est que l'été dernier un après-midi en passant devant votre jardin, et en se penchant pour regarder par un trou dans la haie, railla Marie. » Sans tenir compte de sa remarque, Sophie continua. « Elle t'a vu pour la première fois tassée dans une chaise roulante, à l'ombre, emmitouflée dans des couvertures. Elle a pensé que tu étais un jeune visiteur venu te reposer chez Mrs. Cunningham en attendant ta convalescence. Mais elle t'a revu quelques semaines plus tard. » À cet instant, le docteur Marlowe entra. Il avait dû entendre la dernière phrase, car il intervint à son tour pour exprimer les mêmes soupçons que Marie. Disons plutôt qu'elle a aperçu ce pauvre garçon par le trou qu'elle avait fait elle-même dans la haie. Mais Sophie, prise par son histoire, poursuivit. Elle a trouvé ça très bizarre, dans la mesure où ta mère ne recevait jamais personne, et en plus tu n'avais pas l'air d'aller tellement mieux. « Ah !» coupa de nouveau le docteur Marlowe. « Si seulement je pouvais établir mes diagnostics avec autant de rapidité et de certitude que Mrs. Parker !» Je ne pus m'empêcher d'éclater de rire. Pour moi, qui n'avais connu que la présence austère de ma mère, le fait de me trouver dans cette immense pièce avec des parents et des enfants qui entraient et sortaient sans cesse, s'interrompaient à tout bout de champ, se querellaient, se taquinaient, plaisantaient à qui mieux mieux, me donnait l'impression d'être entré dans un des livres que j'avais lu et relu pour tuer le temps. Je crois que je n'aurais pas été surpris d'entendre le docteur Marlowe déclarer de but en blanc que nous allions prendre des canoës pour remonter l'Amazone, ou attacher un panier d'osier sous une montgolfière pour aller traverser la Manche. Je cessai de rire quand je me rendis compte que le docteur m'observait. Son visage avait la même expression de stupéfaction que la première fois que je lui avais serré la main dans ma chambre, puis en bien d'autres occasions depuis que j'habitais chez lui. Quelques instants plus tard, il profita de ce que les filles se chamaillaient à propos de la couleur d'une soirée que Marie devait assortir à sa tenue pour me faire signe de le suivre. Avait-il des nouvelles de ma mère? Ou bien avais-je commis quelques faux pas dans cette vie toute neuve? Mon cœur se mit à battre. On venait de me rappeler que je n'étais pas un membre à part entière de cette famille joyeuse, chaleureuse et rassurante. Aussi, je quittai mon tabouret près de la cheminée et me dirigeai vers la porte. Le docteur Marlowe m'attendait dans le couloir. Il me prit par l'épaule et me dit « Suis-moi dans mon bureau, il faut que nous parlions. » Je ne pus m'empêcher d'exprimer mon inquiétude. « Ai-je fait quelque chose de mal ?» Il rit. « Mais non, pas du tout. » Et plus sérieux, il ajouta « Simplement, il y a quelque chose qui m'échappe. » Nous entrâmes donc dans son bureau, et il m'invita à m'installer à mon aise dans un fauteuil et approcha le sien si près que nos genoux se touchaient presque. Il semblait ne pas savoir par où commencer. Finalement, il dit dans un soupir « Inutile d'y aller par quatre chemins. Daniel, je dois t'avouer qu'il y a une chose qui reste pour moi un mystère. » J'attendis. Il se passa assez longtemps avant qu'il ne reprît la parole. « Si ce que j'ai compris de ta vie d'avant est vrai, tu es resté pendant toutes ces années pratiquement cloîtré, sans jamais respirer l'air pur ni jouir de quelque compagnie que ce soit. » Ce n'était pas tout à fait exact. « J'avais tout de même celle de ma mère, objectai-je. » Il ne chercha pas à dissimuler le peu de cas qu'il faisait de cet argument. « Et pourtant, tu t'es très bien adapté à notre maison pleine de bruit et d'agitation. » J'étais stupéfait. Un grand silence s'installa. « Peut-être trop bien, » avança-t-il au bout d'un moment. « Trop bien ?» Il sourit. Sophie t'apporte son lapin, tu passes tes doigts dans sa fourrure et te voilà en extase, comme si tu n'avais jamais rien touché de pareil. C'est que ça ne m'était jamais arrivé, docteur Marlowe. Je n'avais jamais touché d'animal vivant. Quand nous marchons jusqu'à la rivière, tu tombes en arrêt devant toutes les vaches. Elles sont tellement énormes, tellement plus lourdes qu'elles n'en ont l'air dans les livres. En plus, quand Sophie s'est penchée par-dessus la barrière pour en flatter une, un nuage de poussière s'en est échappé. Il sourit. « Les couchers de soleil te fascinent. Je n'avais jamais vu de tel ciel avant. Ma chambre donnait au nord. Bref, ces dernières semaines, je t'ai observé, en train de découvrir le monde comme le ferait un tout petit enfant. La première pluie sur ta tête, la première fois que tu as descendu l'escalier sans te tenir à la rampe, et quand je t'ai surpris à contempler, dans une des casseroles de Kathleen, le porridge en train de bouillir, je te jure que tu avais l'air aussi béat que si tu avais eu sous les yeux l'élixir de longue vie. Il écarta les bras, perplexe. Tout est nouveau pour toi, Daniel, tout est nouveau. Il se pencha soudain vers moi. Sauf les gens. Les gens? Il examinait à présent le dos de sa main comme s'il était mal à l'aise. Je veux dire par là que si tu n'as jamais rencontré personne, où as-tu appris à t'adresser avec la politesse d'usage à un homme comme moi en disant monsieur, ou à une femme comme mon épouse en disant madame ou Mrs. Marlowe? Où as-tu appris à différencier une taquinerie d'un propos authentiquement méchant? Comment se fait-il que tu n'aies jamais été décontenancé par mes filles qui ne cessent d'aller et venir d'une pièce à l'autre, par Sophie qui te tire les cheveux pour attirer ton attention? Une fois encore, il écarta les bras pour exprimer son incompréhension. Alors, Daniel, tu me demandes comment, enfermé dans... Je me demande comment, enfermé dans cette chambre, avec ta mère pour seule compagnie, tu as pu apprendre à être aussi à l'aise dans une famille. En lisant, proposai-je. Il n'était pas convaincu. En effet, j'admets que la lecture a pu t'aider à comprendre le monde et son fonctionnement. Tu dis toi-même qu'il y avait des vaches dans les livres, mais jamais aussi lourdes et poussiéreuses que les vraies. Seulement, les gens sont bien plus difficiles à comprendre que les vaches. Et j'ai remarqué une réelle aisance dès le départ dans ta façon de t'acclimater à la vie chez nous, de prendre la parole à table, de taquiner Sophie, de savoir avant tout le monde que Marie est fâchée ou Cécilia fatiguée. J'aimais déjà tellement cet homme que je fus ravie de pouvoir répondre à la place, à sa place. Oh, il n'y a rien d'extraordinaire à cela. J'ai toujours vécu ce genre de vie, mais à l'intérieur de la maison de poupée.